Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Union européenne va débattre d'un nouveau report du Brexit prévu le 31 octobre. Le Parlement britannique veut plus de temps pour examiner le texte. Le point avec notre correspondant à Londres.
Après un accord entre la Russie et la Turquie hier, Ankara annonce qu'elle ne reprendra pas son offensive militaire contre les Kurdes dans le nord de la Syrie.
De nouvelles violences ont eu lieu en Bolivie hier. Des opposants au président ont manifesté. Ils sont appelés à faire grève. Reportage à La Paz. Emmanuel Macron est attendu ce matin aux îles Glorieuses, confettis de 7 km² dans l'océan Indien, des îles revendiquées par Madagascar. Cyril Graziani nous dira pourquoi. Et la question du jour, Guillaume.
Eh bien, 2 ans après la mise en place du CETA, quelles sont les conséquences pour les agriculteurs? On en a beaucoup parlé, on va tenter un bilan en compagnie de Sophie Devienne, elle est ingénieure agronome.
Boris Johnson tourne en rond. Après un deuxième vote hier, les parlementaires de la Chambre des communes ont décidé de ne pas se prononcer sur le nouvel accord du Brexit d'ici à jeudi soir, estimant que le délai est trop court pour débattre d'un pavé de 110 pages. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre prochain semble donc compromise au grand dam du Premier ministre britannique. À Londres, Antoine Gignot.
Une nouvelle fois, tout est bloqué. Même s'ils se disent a priori favorables à l'accord sur le Brexit négocié avec Bruxelles, les parlementaires refusent la procédure d'urgence qui permettrait de valider le texte dans la semaine. La gauche veut du temps pour déposer des amendements et obliger le pays à rester dans l'union douanière, explique Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes.
Work with us, all of us.
Travaillez avec nous tous, pour qu'on se mette d'accord sur un agenda raisonnable, pour débattre, voter et, je l'espère, amender ce projet de loi. C'est la manière la plus raisonnable d'agir.
Mais cet examen en détail, Boris Johnson n'en veut pas, après avoir dit et répété qu'il préférait mourir dans un fossé plutôt que de reporter le Brexit. Le Premier ministre suspend les débats et tente de faire bonne figure.
Nous ne devrions pas repousser le Brexit. D'une manière ou d'une autre, nous sortirons de l'Union européenne avec cet accord, puisque le Parlement vient de dire qu'il y est favorable.
Dans la salle, les conservateurs en majorité applaudissent, mais l'opposition fulmine. Le Premier ministre a l'obligation de demander un report, s'étranglent les indépendantistes écossais. Ils répètent leur intention de faire sortir l'Écosse du Royaume-Uni.
Et le président du Conseil européen, Donald Tusk, a recommandé aux États membres de l'Union européenne d'accepter un troisième report du Brexit. Tant que la situation est bloquée, les patrons de PME sont dans le flou. D'après la Confédération des petites et moyennes entreprises, 43% des PME se disent concernées par le Brexit. 35% d'entre elles affirment s'être préparées pour l'affronter. Pauline Renoir, vous avez rencontré 2 patrons.
2 Français aujourd'hui face à une équation à plusieurs inconnus. Il leur faut anticiper des pertes à l'export en cas de Brexit, une augmentation des taxes et surtout des heures d'attente à la douane pour franchir la Manche. Gary Haworth est le directeur général de Toutprêt, une entreprise française de fabrication d'enduits. Il vient de tripler son stock de marchandises près de Londres pour satisfaire ses clients anglais sans avoir à traverser la Manche.
Avant, nous avions 300 emplacements de palettes dans cet entrepôt. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. De l'argent dans les stocks, c'est de la trésorerie de plus, mais bien évidemment, nous considérons que c'est un investissement utile et important pour assurer le bon service à nos clients. Ce que nous ne savons pas, c'est que quel sera l'impact des difficultés autour de Calais, soit au port, soit à l'Eurotunnel.
Ce patron de PME a aussi lancé un groupe d'analyse des conséquences du Brexit au sein de son entreprise. Ils ont imaginé les nouvelles normes auxquelles les enduits qu'il exporte pourraient être soumis, car ce sont des produits chimiques. David Sagnard, lui, est à la tête des Transport Carpentier, une PME qui réalise 1/3 de son chiffre d'affaires avec la Grande-Bretagne. Si Brexit dure, il s'attend à des embouteillages à Calais, là où ses chauffeurs prennent leur départ.
C'est plus qu'une difficulté, ça sera vraiment catastrophique. Lorsque vous immobilisez l'ensemble des véhicules, vous perdez 700 euros de chiffre d'affaires par véhicule, vous le multipliez par le nombre de camions dont dispose l'entreprise, chez nous 70, vous arrivez facilement à plusieurs dizaines de milliers d'euros perdus pour l'entreprise, par jour, puisqu'on ne sait pas les récupérer et c'est vraiment de la perte sèche.
Et pour retourner la situation en sa faveur, David Sagnard vient d'acheter un parking de 300 places à Calais pour les poids lourds en transit vers le Royaume-Uni. Un investissement qui pourrait faire un flop en fonction de la tournure que prendra le Brexit.
À ce stade, il n'existe pas de besoin de mener une nouvelle opération. La déclaration hier soir du ministère turc de la Défense. Ankara annonce ne pas reprendre son offensive militaire dans le nord de la Syrie après s'être assuré du retrait des forces kurdes conformément à l'accord arraché il y a 5 jours par le vice-président américain Mike Pence. Dans la journée, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé un accord avec son homologue russe Vladimir Poutine qu'il qualifiait d'historique sur le contrôle de la frontière turco-syrienne. Daniel Valo.
Ce sont des décisions importantes et même cruciales que nous avons prises. Vladimir Poutine aura tout de même discuté plus de 5 heures avec Recep Tayyip Erdogan avant de parvenir à cet accord. La Turquie s'engage à ne pas reprendre son offensive militaire. En échange, la Russie lui promet un retrait des combattants kurdes tout au long de la frontière. Les deux dirigeants se contentent de saluer l'accord. C'est Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui se charge d'en préciser les contours.
À partir de 12h ce 23 octobre, les forces russes et syriennes faciliteront le retrait des éléments kurdes et de leurs armes le long de la frontière. Ce retrait devra être effectif au bout de 150 heures.
Selon les termes de l'accord, les forces syriennes et russes devront s'assurer le contrôle de toute la frontière à l'exception des 120 km dont la Turquie s'est emparée à la faveur de son offensive. Des patrouilles seront ensuite conjointement menées par la Russie et par la Turquie de part et d'autre de cette zone. L'accord est historique, conclut Recep Tayyip Erdogan, visiblement convaincu par les garanties apportées du côté russe. Pour sa part, Vladimir Poutine peut se targuer non seulement d'avoir joué le rôle d'arbitre, mais aussi d'avoir étendu la zone d'influence de son principal allié, le régime syrien de Bachar al-Assad.
Daniel Valo, correspondant de RFI en Russie pour France Culture. Le président chilien demande pardon à ses compatriotes. « Je reconnais ce manque de vision », a-t-il déclaré hier. Les émeutes qui ont éclaté après l'annonce de la hausse du prix du ticket de métro ont fait 15 morts en moins d'une semaine. Le dirigeant de droite a annoncé des mesures sociales, l'augmentation de 20% du minimum retraite et le gel des tarifs de l'électricité. Nous reparlerons du Chili dans la revue de presse internationale de Camille Magnard à 7h35. De nouvelles violences ont éclaté hier soir à La Paz, capitale bolivienne et voisine du Chili. Forces de l'ordre et manifestants se sont affrontés devant l'hôtel où se trouve l'autorité électorale chargée du dépouillement du scrutin. Le décompte fait polémique. De nouveaux résultats donnent le président sortant Evo Morales gagnant dès le premier tour, alors que dimanche, il était annoncé au second tour avec son principal adversaire Carlos Mesa. Les opposants à Morales appellent à la grève générale. Le reportage d'Alice Campagnol.
Nous n'avons pas peur, Evo, tu ne reviendras pas. Voici ce que criaient hier les milliers de manifestants dans les rues de La Paz et dans le reste du pays, debout pour la démocratie, disent-ils, comme Jaime.
Je suis vieux maintenant, mais je me suis battu contre les dictatures militaires quand j'étais à l'université. Et maintenant, on prend le même chemin. La démocratie que nous avons obtenue ne sert plus à rien.
Beaucoup de jeunes gens ont également répondu présents, eux qui n'ont pas connu les dictatures, mais qui ne croient plus en leurs institutions.
Arrêter le décompte des voix dimanche soir, le reprendre hier, puis le stopper de nouveau, on ne comprend plus rien, c'est l'incertitude. Et c'est pour cela que nous sommes dans la rue aujourd'hui. Et en même temps, nous avons très peur de tout ce qui peut se passer, du conflit entre les citoyens.
Pourtant, plus tôt dans la journée, le ministre Diego Parry tentait de rassurer la population. Il annonçait vouloir de la transparence et que le gouvernement respecterait les résultats donnés par la Cour électorale, quels qu'ils soient. Mais l'annonce n'a pas suffi. Les opposants à Evo Morales réclament toujours les résultats définitifs. Et malgré l'appel à démarches pacifiques, des violences ont encore éclaté hier dans les grandes villes du pays.
Alice Campagnol.
7h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Margot Delpierre. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à La Réunion.
Il restera près de 3 jours dans ce territoire, le seul d'outre-mer à avoir connu un mouvement des Gilets jaunes. Et pour sa première visite en tant que président de la République, les syndicats réunionnais ont lancé un appel à la grève générale pour demain. Avant cela, il fera escale ce matin aux îles Glorieuses, un petit archipel de 7 km² qui fait partie des îles éparses et que la France se dispute avec Madagascar. Cyril Graziani.
Cet aller-retour express, il devrait y passer à peine une heure, c'est Emmanuel Macron qui a exigé de le faire. En posant le pied sur l'une des îles éparses, les Glorieuses, le chef de l'État marque son territoire. Sur ces bancs de sable où vivent quelques légionnaires français ou naissent des tortues, ces îles constituent des écosystèmes de référence où la biodiversité est préservée.
J'irai avec plusieurs scientifiques sur ce territoire extrêmement stratégique dans la région pour marquer notre engagement en faveur de la biodiversité et le choix justement d'aller au bout de la protection de ce territoire et de le sanctuariser pleinement. Et donc tout ça se fait aussi dans un esprit de concorde, de dialogue et d'apaisement dans la région avec nos voisins, nos amis.
Mais Madagascar ne l'entend pas de cette oreille. Depuis 50 ans, le pays revendique ses îles. Au mois de mai, le président malgache et Emmanuel Macron avaient annoncé que des discussions allaient reprendre afin d'aboutir à une solution consensuelle d'ici juin 2020. Au-delà de l'aspect scientifique, ces quelques pas posés sur le sable des Glorieuses pourraient être vécus à Tananarive comme une volonté de la France d'asseoir sa souveraineté sur des confettis aux ressources inestimables.
Le Premier ministre Édouard Philippe est lui en métropole dans l'Essonne. Il sera à Chamarandes ce matin avec notamment la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour présenter sa stratégie de soutien en faveur des aidants. Ceux qui souvent dans un couple au sein d'une famille accompagnent un proche malade au quotidien et pendant des années. Reportage à suivre dans le journal de 8h de France Culture. Le premier volet du projet de budget 2020 a été largement approuvé hier par l'Assemblée nationale. Il s'agit de celui des recettes. Les députés Les Républicains ont dénoncé des cadeaux fiscaux préparant des lendemains qui déchantent avec un accroissement de la dette. La Commission européenne veut des clarifications. La partie dépenses sera examinée dès lundi prochain. La vigilance orange aux orages et pluies inondations s'étend désormais à 9 départements. Le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse rejoignent l'Aveyron, le Gard, le Tarn, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. La principauté d'Andorre est aussi concernée. Par endroits, des routes sont coupées, des campings évacués, des mini-tornades ont été observées à Perpignan et les habitants sont relogés. Il est tombé à Narbonne, dans l'Aude, l'équivalent de 2 mois de pluie en 24 heures. En Italie, les orages ont provoqué la mort d'un homme et l'effondrement d'un pont. Ailleurs, le temps est couvert. Météo France prévoit 6 à 10 degrés ce matin sur la moitié nord de la France, 15 à 20 près de la Méditerranée. Cet après-midi, comptez 13 degrés à Brest, 17 à Lille, 18 à Paris et Bordeaux, 23 à Marseille et 28 à Ajaccio, Guillaume.